Bonjour.
Bonjour.
C'était trop mignon. Waouh, et ça va continuer. Non, honnêtement, Jarry, le talent, c'est inné, c'est quelque chose qu'on porte en soi, presque malgré soi.
Je sais pas, le talent, c'est un mot qui englobe beaucoup de qualités. Moi, j'ai l'impression que je commence à en cocher certaines. Je sais pas, moi, je trouve que le talent, c'est le spectateur, en fait, qu'il a de me choisir.
Joli.
Mais moi, je sais pas.
Non. Vous avez toujours su que vous étiez différent des autres, mais à quel moment vous avez compris que dans cette différence se cachait d'abord du talent?
Ça, c'est une question hyper intéressante. Je crois que j'ai cherché en observant les gens pendant des années à savoir d'abord ce qui me liait à eux pour savoir si j'étais vraiment normal et pourquoi je ressentais pas le besoin d'échanger avec eux. Et après, je trouvais que ma sensibilité, elle était toujours exacerbée par rapport à l'ensemble. Et je me suis dit, est-ce que ça, ce serait pas mon talent ?
D'accord. Alors Jarry, vous êtes né dans une famille, on l'évoquera tout à l'heure, où le verbe, les effets, la mise en scène, je vais dire la fantaisie artistique, n'était pas vraiment de mise. Votre maman, elle travaillait dans les vignes, vos frères ont suivi, et puis votre papa, il était fondeur. Donc tout le monde mettait beaucoup de cœur à l'ouvrage, mais sans trop se préoccuper du second degré de la vie. Il n'y a donc pas de terreau particulier pour devenir un artiste et avoir cette capacité à envisager le monde autrement ?
J'adore. Ce que j'aime, alors d'abord vous avez une voix incroyable. Vous avez une voix qu'on a envie de vous avoir avant de s'endormir parce qu'on se dit il y aura pas de cauchemar cette nuit, il y aura que de doux rêves. Vous avez un truc qui est tellement maternant que j'ai envie vous soyez un peu ma maman pendant une heure.
Et ben d'accord.
Et alors qu'on a l'âge d'être ensemble, ouais. Évidemment. J'ai regardé les gens de ma famille un petit peu pendant des années. Je me posais la question de savoir si j'avais pas été adopté tellement tout ce qui était autour de moi était très différent. Et puis c'était des gens qui étaient passionnés et eux étaient à leur manière des artistes dans leur domaine.
Oui.
Même
oui.
Si pour moi c'était un petit peu rendez-vous en terre inconnue. Mais je sais pas. Je sais pas quoi dire à part que je crois qu'on se construit des fois en opposition ou des fois on se construit avec des gens. Et là, je crois que je me suis construit un peu de manière morcelée.
Vous dites, j'ai eu le sentiment pendant des années d'être le brouillon de moi-même. Alors depuis quand, Anthony, est-il vraiment Jarry ?
Mais je crois, alors ça c'est vrai. Pendant des années, j'avais l'impression que tout ce que je faisais c'était nul et c'était je me suis dit même peut-être que je suis un essai en fait. Peut-être que des Martiens ont donné mon corps à cette famille en leur disant faites un essai avec ce gamin. Et je crois qu'en fait dès que les gens ont commencé à me dire qu'ils m'aimaient, j'ai juste commencé à accepter le fait que je pouvais m'aimer.
Bon, Jarry, on vous connaît depuis 6 ans, depuis la création du premier one-man show baptisé Atypique, et puis la montée en puissance, elle était vraiment très très rapide grâce à la télé qui tout de suite a voulu s'emparer de vous. Pourtant, si on monte à votre arrivée à Paris à l'âge de 22 ans, il a été assez long le chemin qui a fait de vous une star qui s'offre à tous les zéniths de France désormais. En fait, ça fait 20 ans que vous rêvez de nous donner tous ces rendez-vous. Nous, on vous a découvert il y a 6 ans, mais dans votre tête, la projection, elle a commencé quand ?
Quand je suis arrivé à Paris, au départ, j'étais persuadé que c'était un peu comme dans mon village. Donc que j'allais assez vite rencontrer les gens et que la bienveillance était de mise.
Dure réalité.
Déjà, j'ai très vite appris que les gens ne disaient pas bonjour dans la rue. Donc ça m'a un petit peu interloqué. Et très vite, j'ai commencé à vouloir faire des castings où là, on me disait tout le temps, tu es d'où ? Et quand je disais de là d'où je venais, les gens me regardaient un petit peu comme un extraterrestre en me disant, d'accord, il y a des théâtres et de l'électricité, d'où tu viens ? Donc ça a été très, très dur. J'ai vécu dans un 9 mètres carrés au tout début. C'était vraiment des conditions compliquées. Et j'ai rencontré Bernard Grosjean, un directeur de compagnie. Cette compagnie entrée de jeu, j'ai fait le casting, j'ai été pris. Et ça m'a sorti la tête de l'eau, parce que j'ai commencé à apprendre le métier de comédien.
Et vous n'êtes pas rentré à Rabelais sur l'Ayon. Maintenant, vous le faites juste pour embrasser votre famille.
Voilà. Mais pendant 3 ans, tous les soirs, je disais, mais pourquoi je suis venu ici ? Et c'était fou parce que je me souviens, j'habitais dans un 9 mètres carrés, place des fêtes. Et c'était tout petit, 9 mètres carrés. Même ma chambre chez mes parents était plus grande. Et c'est là où tu découvres vraiment qui t'es. C'est là où tu te dis, mais qu'est-ce qui est important pour toi ? Parce que j'avais envie de rentrer et de dire, maman, je suis désolé, je me suis trompé.
Et en même temps, Et pourtant, on reste.
C'est ça qui est dingue. On reste. Parce qu'on sait que si on réussit, on a de l'amour. Et je crois que la vie n'a de sens que si on est aimé ou si à un moment donné, juste quelqu'un vous voit tel que vous êtes en vous disant « moi je sais ».
Alors justement, il me dit, enfin il me parle d'amour là, Jarry. Bon, faut bien le reconnaître, parfois les artistes qui deviennent des stars ont un égo surdimensionné qui les verrouille sur eux-mêmes et sur leurs ambitions. Vous, bah vous êtes carrément à l'opposé de ça. Depuis toujours, vous donnez votre énergie à plein d'associations qui viennent en aide à des jeunes en difficulté ou lors d'interventions dans des maisons d'arrêt. Vous avez même donné des cours d'expression théâtrale au Maroc, en Tunisie, au Mali. Bref, les autres occupent une grande place dans votre vie. Elle vous surprend, cette notoriété gigantesque qui fait de vous quelqu'un qui, aujourd'hui, a la carte, alors que vous étiez tellement tourné vers les autres au départ, parce que vous nous avez parlé de cette compagnie théâtrale Bernard Grosjean, mais vous aviez une double vie, Jarry, presque d'assistante sociale.
Bah oui, mais en fait, moi, étant petit, les gens m'ont toujours regardé comme quelqu'un d'étrange, comme je ne parlais pas. Beaucoup de gens pensaient que j'avais une forme d'autisme. Et on avait convoqué mes parents à l'école en disant « Jarry, on est très inquiet, il ne s'exprime pas, il ne parle pas ». Je ne sentais pas le besoin de ça. Je ne jouais pas au foot, je n'étais pas celui qui avait des amis sur la cour de récréation. J'étais en observation du monde. Et pendant que j'ai observé, je me suis rendu compte que c'était assez facile de taper sur les gens qui étaient un peu différents. Donc moi, j'ai eu envie de les comprendre. Je n'ai jamais voulu avoir de jugement sans vraiment rencontrer les gens. Je trouve que souvent, dans les gens qui nous semblent opposés ou même les plus méchants, il y a quelque chose de fondamentalement qui nous lie pour l'éternité. Je voulais aller en maison d'arrêt, je voulais savoir c'était qui ces gens qui tuaient, qui violaient, qui faisaient des attaques à main armée. Et j'y ai rencontré des gens passionnants, formidables, ce qu'on appelle des gens touchés par la vie, voilà, qu'on choisit les mauvais chemins. Quand j'ai travaillé avec des enfants en fin de vie, j'avais besoin de comprendre pourquoi les choses elles pouvaient s'arrêter.
Et, si tôt,
parce que je crois qu'en fait, dans cette cour des miracles, il y a peut-être l'infiniment petit chez ces gens. Des fois, ça dure une seconde, mais ça vous nourrit pour l'éternité.
Oui, une fulgurance.
Et parce que je crois que je savais tellement pas qui j'étais. J'étais tellement... Je disais tout le temps, j'étais un peu pourri de plein de choses. Et je me suis dit, si les gens qui sont dits normaux ne me voient pas, alors peut-être que les fous verront en moi un représentant. Et j'ai voulu peut-être... C'est bizarre parce que j'ai jamais dit ça. Mais j'en ai marre, en fait, quelque part, qu'on juge les gens. Vous voyez, vous dites, il faut avoir la carte ou pas, mais c'est tellement pas bien de dire ça, en fait.
Je sais, mais vous permet justement de vous exprimer, de répondre
oui,
et de remettre les choses en place.
Parce que c'est quoi avoir la carte ? Enfin, on vient tous d'un endroit, on a tous une histoire et on s'en fout de la finalité de cette histoire. C'est le parcours qui est intéressant. Et on devrait peut-être plus regarder ceux qui n'ont rien ou ceux qu'on pense totalement différents parce qu'ils voient le monde autrement. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faut qu'on mette en lumière ces zones d'ombre et il faut qu'on arrive à vivre ensemble.
Alors ça, c'est ce que vous avez mis en pratique tout au long de
tout
votre histoire.
De ma vie.
Mais parlons de ce spectacle nouveau, baptisé Titre.
Oui.
Ceux qui sont venus voir Atypique vont découvrir un Jarry différent, qui prend vraiment à bras le corps, cette fois-ci, à la fois ce qui le touche et ce qui le met en colère. Et le show, il est vraiment interactif, il dure 1h40, et vous dites, en 1h40, il y a 1h20 d'humour et 20 minutes d'autre chose. Alors c'est quoi ? C'est 20 minutes.
C'est 20 minutes. Moi, j'ai besoin de savoir qui est dans la salle. Donc, je parle aux gens. Ils décident aussi de plein de choses sur l'organisation du spectacle. C'est énormément interactif puisque je donne un cours de chant pendant 1h40. Je fais chanter les gens parce que je trouve que la chanson, c'est la seule chose qui n'a pas de couleur de peau, qui n'a pas de religion, qui n'a pas de classe sociale.
C'est fédérateur.
Voilà. On chante à l'unisson parce que j'avais envie de faire un spectacle pour dire aux gens, en fait, on passe 90% de notre temps à savoir ce qui nous oppose alors qu'il y a tellement de choses qui nous réunissent. Et c'est ça qui se passe. Et les gens se lâchent et les gens sont... Alors, je vais voir les gens, je leur monte dessus, on s'embrasse, je leur demande sur quelle chanson ils font l'amour, sur quelle chanson ils ont envie de pleurer face à l'océan. Voilà, on parle de nous et...
Donc, il faut venir vous voir dans le lâcher-prise.
Il faut... Ah bah oui, oui, voilà. Si tu n'as pas de lâcher-prise, viens avec des amis qui vont te protéger. Parce que tu peux être en danger, parce que je vais dans la salle, parce que j'ai pas envie de ce quatrième mur, j'ai pas envie que les gens se disent « Ah, Jarry, il est inaccessible. » Non, moi, tu peux me toucher. Mais attention, on le fait avec bienveillance. Ça, c'est important. Et puis ce spectacle, parce que 20% aussi de juste de dire « Dites-moi qui vous êtes. » Voilà. Parce que ce que vous êtes va changer le cours des choses, puisque c'est une rencontre, un spectacle. Je peux pas sortir mon texte comme ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. Les gens du Nord sont pas les gens du Sud, les gens de l'Est sont pas les gens de l'Ouest, et inversement. Et des fois, il y a des moments de magie. Il y a des moments de magie. Vous allez parler à une dame qui va vous dire une phrase incroyable. Et puis là, tout le monde est ému. Je donne souvent cet exemple parce que ça m'a bouleversé il y a 2 jours. Il y a une maman qui vient et voilà, je commence à charrier la maman sur la qualité de ses cheveux en disant vraiment, vos cheveux sont déshydratés, il faut absolument en prendre soin. J'ai un problème sur l'hydratation des cheveux, je ne sais pas pourquoi. Donc elle rigole et elle est avec son fils de 14 ans. Et je rigole, je dis à son fils, je dis, tu sais, tu peux dire à ta maman que tu es gay. Mais sur le ton de la blague. Et la mère me dit, il me l'a annoncé hier. Et là, la salle applaudit. Et je vois que le gamin de 14 ans, sur quelque chose qui a été pour lui dur et dramatique, là, il se dit, il y a 400 personnes qui m'applaudissent et les gens disent bravo et ça. Et sa mère lui dit, je t'aime. Ben ça, c'est des moments, vous voyez, où vous ne pouvez pas l'écrire, où la vie, vous dites, waouh, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien.
Bon, vous l'avez compris, c'est une sacrée rencontre que je vous propose cet après-midi. Avec Jarry, on a une heure toute à nous. On se retrouve tout de suite. Et alors, cher Jarry, par une journée triomphale du mois d'août 77, est né à Angers le petit Anthony Lambert, qui a donc grandi au milieu des vignes de la campagne angevine, à Rabelais-sur-l'Aillon, petit village de 600 âmes. On est très, 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 très loin des plateaux de télé. Est-ce que vous avez aimé votre enfance, Jarry ?
J'ai adoré mon enfance. J'ai aimé, alors évidemment avec le recul, hein, vous m'auriez posé la question à 9 ans, je vous aurais dit « Mais non, mais qu'est-ce que je fais là ?» J'ai adoré parce que j'ai vécu en étant protégé. J'ai pu aller m'amuser dans la rue, dans les forêts, sans qu'on ait peur que je disparaisse ou que je sois enlevé par quelqu'un. Et puis, tout le monde connaît tout le monde. Donc, partout où j'allais, je connaissais les gens. J'ai jamais eu cette sensation d'être perdu. Dans ce petit village aussi, on se levait tôt parce qu'on vit avec le soleil et on se couche tôt parce que, voilà. Ouais. C'est aussi les valeurs de la fraternité. Alors, il y a aussi tout l'aspect désagréable, c'est quand vous commencez à fumer, tout le monde le sait très vite, hein, parce que tout le monde répète tout aux voisins, puis vous sortez avec votre copine que vous ne connaissez depuis 10 ans. Enfin bref, c'est la vie des villages. Et aujourd'hui, avec le recul, oui, je peux dire que j'ai eu une enfance merveilleuse. Après, quand j'étais dedans, quand j'étais petit, c'était très compliqué.
Alors, par exemple, est-il vrai que l'été, bien évidemment, dans cette campagne angevine, tous les villages étaient en fête, organisaient des spectacles, mais c'était jamais les vraies vedettes qui venaient, c'était toujours leur sosie. Donc à Rabelais-sur-l'Aillon, on voyait le sosie de Johnny, le sosie de Mylène Farmer. Paris était loin, c'est ça ?
Ah bah Paris était très très loin. Paris, c'était un peu le Japon hein, pour nous aujourd'hui. Oui, et alors ça c'était très drôle, ça s'appelait la fête de l'omelette. Et donc ils faisaient déjà hein, le nom envoie du lourd. Et tous les ans on avait le sosie de quelqu'un et on allait voir ça et nous c'était génial quoi. Quand on voyait le sosie de Johnny, c'était Johnny pour nous. Et c'était tout le village était comme dingue. On a eu le sosie, je me souviens, d'Elsa, la chanteuse. Je revois mes copines pleurer, quoi. Alors qu'elle est juste son sosie, elle chante en playback.
Bon, vous ne ressembliez pas à vos frères, Jarry. Vous ne ressembliez pas à vos copains. En fait, vous aviez une obsession. Savoir ce qu'il y avait au-delà de la colline qui barrait l'horizon, c'est ça ?
Exactement. Ouais, parce que j'étais dans les coteaux du Léon et tout autour de moi, c'était des vignes. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ?
Il y a derrière tout ce que je vois à la télé, par exemple.
Exactement. Et en plus, c'est bizarre parce que tous mes copains voulaient rester en disant « Ah, moi, je veux être vigneron, je veux être ébéniste. » Et moi, je disais tout le temps « Ah, mais moi, je veux voir le monde, en fait. C'est sûr, il y a eu un problème d'accouchement de lieu. Mais moi, à la base, je ne devais pas du tout naître ici. Je devais naître dans une ville avec des lumières. Et de ma chambre, j'avais la vue sur la colline et je regardais tout le temps et je me disais « Je suis sûr que derrière, il y a quelqu'un qui m'attend. » Pour vivre quelque chose.
Alors, puisque vous parlez de votre chambre, Jarry, il paraît que devant le miroir de votre armoire, bien enfermé comme ça dans la chambre, vous entraîniez à danser et parfois vous jouiez à mourir, comme sur la scène de la Comédie Française. En fait, vous rêviez d'être Isabelle Adjani.
Complètement. Je rêvais d'être complètement Isabelle Adjani. Ouais.
Surtout dans La Dame aux Camélias.
Dans La Dame
aux
Camélias.
Parce qu'elle sait si bien mourir,
mais oui,
Isabelle.
Mais c'était génial. Mais puis c'est jouissif à jouer. Et j'adorais parce que je mourais de manière dramatique, de manière rigolote, pour rassurer ceux qui vont rester. Non, je me suis entraîné. J'avais ma couette, j'avais une grosse couette, donc je pouvais aussi tomber de haut. Donc il y avait vraiment... Je me souviens, ma mère est rentrée, elle disait « Bon, t'arrêtes ! Hein ? C'est quoi ces conneries ?» Et moi, j'étais là « Bah bon. »
Mais en même temps, votre maman, elle a toujours été votre alliée.
Ah ben heureusement.
Elle les a captées avant vous, vos différences, à votre avis ?
Oui.
Ouais.
Mais je le dis dans mon spectacle, je dis... À mon adolescence, j'étais sous une mer d'angoisse et de peur. Et je pense que si elle ne m'avait pas tendu la main, je pense que j'aurais pu disparaître. Tellement, à un moment donné, tout était compliqué autour de moi. Et elle n'a jamais dit qu'elle savait. Elle m'a toujours protégée. Et c'est des années après que je me suis rendu compte que cette femme, elle m'avait sauvée.
C'est elle qui vous a inscrit dans un cours de danse à Angers ?
Oui, parce que mon père voulait que je fasse du judo. Donc je m'habille en judo à la maison pour lui faire plaisir.
Ça, on est dans Billy Elliot.
Voilà. Et ma mère, je prenais un cours de modern jazz. C'était rigolo parce que j'étais le seul garçon. Et je faisais du modern jazz
en judo. On est vraiment dans Billy Elliot. Ouais.
Et du coup, quand je faisais les matchs de judo, j'étais nul. Mon père ne comprenait pas, donc je négociais avec les candidats. J'allais les voir en disant « Est-ce que tu peux me laisser sur le tatami 10 secondes avant de me mettre hippon ?»
Incroyable. Mais quel danseur étiez-vous au Centre de danse contemporaine d'Angers ? Parce que ça sonne bien quand même, Centre de danse contemporaine. Puis, je vous ai vu sur scène, vous êtes archi doué, vous auriez pu investir les ballets de Reda. Vous auriez pu faire carrière, honnêtement, Jarry ? Vous auriez pu devenir danseur professionnel ?
J'aurais pu devenir danseur professionnel. Il aurait fallu que ça fasse partie de la culture de la famille, de pouvoir faire de la danse. On était à quelques années pour que mon père accepte ça. Quand j'ai rencontré le CNDC, j'ai fait la première formation de danse hip-hop, danse urbaine en France, avec tous les plus grands chorégraphes de danse hip-hop. Et c'était super parce que ça me permettait de faire une danse virile,
ouais.
Même si moi je rêvais de pointe et de grands jetés. Moi je ne faisais pas de break, hein. Je ne faisais pas ce que faisaient les garçons. Moi je faisais du lock et du pop, de danse debout, du voguing.
Oui, je vous imagine très bien, voilà. Dans le voguing.
Et j'adorais ça parce qu'en fait, encore une fois, je n'avais pas besoin de parler, c'est mon corps qui s'exprimait. Et je trouvais ça magique.
Allez, on fait une pause très très courte, c'est promis. Restez avec nous, on est avec Jarry. Alors Jarry, le théâtre, c'est au lycée en fait qu'avec Fougue, vous l'avez abordé. Vous qui rêviez d'un destin sous les lambris de la Comédie Française et qui vous entraîniez à rendre l'âme devant le miroir de votre chambre, vous avez hérité un jour d'un rôle tragique à défendre sur scène et ça vous a enchanté. Vous deviez jouer un héros de la mythologie grecque dans le mythe de Persée et votre père devait mourir dans vos bras. Vous alliez donc arracher des larmes à tout le monde. Mais voilà, quand vous avez joué cette scène absolument déchirante, la salle entière a explosé de rire.
C'est ça, trois fois de suite.
Trois
jours de suite, la salle était hilar jusqu'au moment où le metteur en scène a pris la décision de me virer. Alors que j'étais premier degré, mais les gens rigolaient. Ils disaient, mais oui, mais quand tu meurs, tu sais, rigolo.
Oui, non, mais alors attendez, le fait qu'on vous dise ça, ça vous a intrigué ou ça vous a désespéré ?
Mais non, mais toute la vie, depuis que je suis né, à chaque fois que j'essayais de faire un truc sérieusement, je fais rire les gens. Vous savez, j'ai l'impression d'être le con, moi, de l'histoire en permanence. Et même quand j'essayais d'être autoritaire, les gens, ils rigolent. Alors, je me suis dit, il faut peut-être à un moment donné voir ce que la vie... te renvoie comme message.
Bien sûr, mais vous saviez quand même, adolescent, que vous aviez cette capacité à faire rire. Vous n'étiez pas que dans le tragique. Vous en usiez de l'humour quand même.
Pas autant que ça.
Oui.
Non, c'était souvent malgré moi. Ouais, non, c'est vraiment souvent malgré moi. J'ai même des souvenirs d'arriver dans des endroits où il faut être ultra sérieux et moi je provoque un fou rire aux gens. Ça arrivait une fois lors d'un enterrement. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est quand même terrible de faire rire les gens alors que votre intention de départ, elle est d'émouvoir. Ouais,
Ce que vous nous racontez là, les rires provoqués lors d'un enterrement, c'est récent ?
C'était, non, il y a une dizaine d'années.
Donc vous n'étiez pas encore une vedette
et on ne voyait pas
arriver Jarry.
Non,
théoriquement, on voyait arriver Anthony Lambert,
oui,
à cet enterrement.
Et c'est Anthony qui est allé pour lire un texte. Et quand je suis arrivé, j'ai vu que le prêtre était black. Et je lui ai fait une blague, mais... Mais je lui ai fait une blague juste parce que j'étais stressé. Et je me suis dit, il ne faut pas que je pleure pendant que je lis le message. Et j'ai fait rire tout le monde. Et là, je me suis dit, ah, d'accord, carrément.
Et comment l'a pris la famille ?
Ça leur a fait du bien de rigoler parce que c'était pas...
ça cautérisait.
Oui, c'était pas un rire désobligeant.
Voilà, ponctuellement
c'est surtout
chagrin.
Surtout le prêtre qui m'a regardé en mode, il est sérieux, lui.
Mais alors, je reviens à l'adolescence, Jarry. L'humour, à cette époque-là, est-ce que ça faisait partie... quand même d'un package qui vous permettait de faire accepter des différences auxquelles à Rabelais-sur-Layon, on n'était pas habitué, on va dire.
Je crois que l'humour à cette époque-là, ça me permettait de vivre, en fait, d'avoir une soupape et de tout dédramatiser ce qui se passait autour de moi.
Vous vous sentiez seul ?
Je me sentais seul. Et puis en plus, à l'époque, j'avais des copines et je ne ressentais pas la même chose que mes copains. Ils me disaient, oh là, c'était génial, j'ai fait l'amour à cette vie, c'était génial. Mais moi, je disais, ouais, bon, c'était comme une entrée que tu as un peu ratée, mais bon, il faut la manger, quoi, pour faire plaisir aux gens. Donc je ne me sentais jamais exactement dans ce que ressentaient les gens. Je me souviens, avec mes copains, on avait regardé le film Le Cercle des Poètes Disparus.
Oui.
Et moi, j'étais allongé au sol en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Et mes potes me disaient, mais t'es sérieux ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Donc je vivais toujours, mon curseur des émotions n'était jamais au même endroit. On est allé, on a fait une sortie ski, je me suis rendu compte que j'avais le vertige face à la pente, alors qu'on était monté. Donc j'étais obligé de descendre. Et j'ai tout descendu sur les fesses, mais c'était un drame.
Alors, vous parlez énormément de votre maman, Jarry, la confidente, toujours bienveillante, mais vous parlez assez peu de votre père. Avant d'être touché par la maladie, votre papa, il faisait vraiment tout pour remettre son fils dans ce qu'on appelle le rang.
Mon papa et moi, c'était beaucoup d'amour, mais une incapacité totale à se le dire, à communiquer et à vivre des moments ensemble. Mon père, il a été élevé dans une éducation très stricte où un garçon, c'est un footballeur, c'est un chasseur, c'est un pêcheur. Et il a en face de lui trois garçons qui sont ça et un qui s'entraîne à mourir dans sa chambre, à réciter les poèmes d'Éluard et qui est un peu efféminé. Donc il se dit, il y a un souci. Ma femme a fait un truc avec le facteur. Heureusement pour nous, le facteur était très viril. mais c'était ça. Moi, je me souviens que je me disais, mais c'est sûr, c'est pas mon père. On s'aimait, je crois. Enfin, maintenant, aujourd'hui, avec le recul, évidemment qu'on s'aimait fort, mais rien. Il n'y avait pas un endroit où on pouvait trouver un terrain d'entente. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis souvent
jamais,
aux gens...
Jamais, à aucun moment.
Non. Même à table, tout ce qu'il aimait, je n'aimais pas. J'ai pas de souvenir de moi avec mon papa étant enfant ou adolescent. J'en ai pas.
Mais alors, Jarry, votre père, il a eu le temps de voir son fils devenir une vedette ou pas du tout?
Non.
Il est parti avant.
Ouais, il est parti, j'avais 21 ans. Mon papa, il saura pas. Mais il sait, ou on s'en fout d'ailleurs qu'il sache, mais...
On retrouve tout de suite Jarry. Je reçois un phénomène qui a fait de sa différence une force. C'est simple, on aime aimer Jarry. Alors Jarry, on évoquait... À l'instant, cette enfance à la Billy Elliot et puis cette propension à faire naître le rire par défaut, puisque sur scène, quand vous vouliez émouvoir, vous faisiez rire. Pour autant, ben vous n'êtes pas directement aiguillé vers une carrière d'humoriste pendant de nombreuses années, et ça on en a parlé un tout petit peu au début de cette conversation. Pendant plus de 10 ans d'ailleurs, votre vie s'est partagée entre la vie d'artiste, avec le théâtre que vous avez exploré auprès de Bernard Grosjean et sa compagnie baptisée Entrée de jeu, et une vie d'éducateur. En venant en aide à des centaines de jeunes au travers d'associations, que ce soit des lycéens en difficulté ou des jeunes dans des maisons d'arrêt. Donc elle vous a vraiment emmené très 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 loin cette double vie.
Oui, elle m'a enrichi, ce qui fait que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir croisé tellement de parcours que je ne suis pas du tout dans quelque chose de dramatique. Parce que tous ces gens-là, ça correspond à des moments de leur vie. Et puis derrière chaque orage, il y a le soleil. Donc on participe aussi à tous ces moments où les gens se trouvent, se retrouvent, définissent des projets professionnels, se réconcilient, arrêtent des addictions, sont libérés. Et ça, c'est des moments privilégiés pour quelqu'un d'accompagner tous ces moments.
Mais vous dites, après l'orage, il y a le soleil. D'accord, mais avant le soleil, pendant l'orage, par exemple, dans les maisons d'arrêt, vous leur parliez comment de théâtre aux détenus?
Mais je leur dis, d'abord, les détenus dans les maisons d'arrêt qui venaient prendre mes cours de théâtre, ils venaient parce qu'ils avaient droit à une douche en plus. Donc ils venaient surtout pour se laver. Hein. Ils n'avaient pas vraiment envie de jouer des rôles avec moi. Et très vite, en fait, moi je leur ai dit, je viens dans un endroit enfermé parce que je crois qu'il n'y a pas de lieu où on ne peut pas rêver et être libre dans sa tête. Et moi-même, j'ai besoin de le mettre en résistance. Est-ce que je suis capable de faire ça avec vous? Et en fait, au départ... sur une heure, on jouait 10 minutes et on parlait pendant 50 minutes de la vie, de leurs préoccupations. Et puis, je leur disais tout le temps que le théâtre, ça permettait d'essayer des choses sans risque. Par exemple, je leur disais, comment tu peux être galant? Voilà, on joue une situation, ok, je m'appelle Brigitte, tu me trouves mignonne, voilà, sois galant avec moi pendant 2 minutes. Et le mec, il pouvait arriver en disant, bah tiens, assis-toi là, je t'offrirai un verre. Je disais, ah, bah, ça c'est pas très galant. Comment est-ce qu'on peut être galant? Et du coup, on est rentré dans des jeux de rôle comme ça, et après on a abordé des sujets comme c'est quoi la liberté, c'est quoi avoir peur, c'est quoi être en colère, c'est quoi retirer la vie, voilà.
C'est peut-être pas de prime abord, hein, en théorie, avec la population carcérale, qu'il est le plus facile au départ, quand on arrive de l'extérieur, de s'exprimer. Surtout quand on a cette sensibilité surdimensionnée. Quand il y avait des débordements, vous saviez tout de suite désamorcer? Jarry, il éclate de rire quand je pose la question.
Je faisais une roue et je faisais Sailor Moon et là, il disait qu'est-ce qu'il fait le mec. Non, mais en fait, j'ai toujours eu cette chance, dès que je sens une tension, de pouvoir dire un petit truc qui détend tout le monde. Et moi, je leur disais tout le temps, attention, j'ai fait le choix de venir, d'accord ? Il n'y a que vous qui pouvez me donner raison d'être là. Si demain, il se passe quoi que ce soit, vous aurez donné raison à tous les gens qui ne comprennent pas pourquoi je viens donner des cours de théâtre en milieu carcéral. À vous d'être à la hauteur de mon envie. Si après, vous passez à côté de cette envie, les amis, moi, les cours de théâtre, je peux en donner dans plein d'autres endroits. Donc, soit vous prenez ce moment-là pour vous, et que pour vous, soit vous décidez de venir là pour régler vos comptes et même me faire peur, ce sera fin. Ce sera clap de fin, moi je rentre chez moi. Moi je suis libre. Hein. C'est vous qui êtes enfermé.
Et donc ça marchait.
Alors ouvrez cette fenêtre sur un espace de liberté ou fermez-le définitivement, mais vous avez la responsabilité. Je crois, et d'ailleurs c'est important, que les gens ils se rendent compte qu'on a tout le temps le choix.
Ouais. Ouais. Vous avez donc fait ça pendant des années. Parallèlement, vous jouiez au théâtre, vous participiez avec des petits rôles au départ à des films. Et il paraît que c'est Didier Bourdon, dans les coulisses d'un tournage, justement, vous faisiez absolument hurler de rire tous les acteurs et les techniciens, qui vous a conseillé d'écrire un one-man show. Mais le sketch de la majorette Jarry, il n'était pas déjà depuis en fait très longtemps dans un coin de votre tête? Vous n'y aviez jamais pensé?
Je n'y avais jamais pensé, mais je voulais parler de quelque chose qui m'avait fait du mal pendant des années. Et comme ma mère m'a dit, comme on emmène tes frères faire du foot et qu'on n'a qu'une voiture, il faut que tu fasses un sport. Moi, le foot, j'avais peur du ballon. En plus, ils m'avaient mis gardien, donc c'était horrible. Dès qu'ils arrivaient sur moi, je courais. Donc, je fuyais le terrain, hein, ce qui fait qu'on perdait. Enfin, bref, tout le monde m'en voulait. Et il y avait des majorettes avant les matchs de foot. Donc, du coup, ma mère m'a dit, comme t'aimes bien danser, on va te mettre majorette.
C'est votre mère
voilà. Qui
a décidé de faire de son fils une majorette.
Exactement. Et j'étais encore le seul garçon majorette.
J'imagine.
Et comme le costume de majorette n'existait pas, c'est ma mère qui l'a créé. Voilà. Et ma mère n'est pas couturière.
En fait, votre maman est votre premier impresario, Jarry.
Voilà. Ma mère est la responsable de pas mal de coups et blessures. Non, mais et du coup, je me suis retrouvé majorette. Et du coup, quand j'ai commencé à écrire mon premier spectacle, je me suis dit, de cette étape-là, je vais en faire un sketch qui va faire rire les gens. Voilà.
Et ça a été le début de l'aventure. Voilà, le premier one-man show baptisé Atypique a été un triomphe. Mais vous êtes le premier à dire que, en fait, à vos débuts à la télé, il y a donc à peu près 6-7 ans, vous vous cachiez derrière une sorte d'hystérie. Pourquoi, à cette époque-là, étiez-vous, j'ai presque envie de dire, dans la caricature de vous-même, Jarry?
Mais alors, merci pour cette question. Parce que depuis le temps que j'ai envie d'y répondre...
Alors, allez-y,
je
vous écoute.
Je vous aime. Oh là là, si seulement. C'est passé à pas grand-chose, c'est dommage. Tout simplement parce que j'arrive, moi, dans ce monde qu'est la télévision. Et c'est vrai que je découvre en même temps la notoriété, je découvre que ce que je suis à l'écran. Et c'est vrai que j'ai un côté très exubérant. Il faut me voir certains soirs, je peux être très, très exubérant. Et je vois que ça fait rire les gens autour de moi. Donc je me dis, je vais mettre ça en avant. Sauf que la télévision, ça emmène le projet très vite et très loin.
Et puis ça décuple tout.
Et là, du coup, je, quand je revois mes premières télés, t'as l'impression que c'est un truc complètement hystérique, que je suis aussi un petit peu. Mais il y a plein de moments où je suis posé, calme. Et du coup, il m'a fallu quelques années avant de comprendre le cadre dans lequel je devais m'inscrire. Et puis aussi, j'avais l'impression que les gens n'aimaient que ça de moi. Donc je donnais que ça parce que je me disais, ah d'accord, ils aiment que ça. Et puis aujourd'hui, avec des interviews comme la vôtre, je peux montrer autre chose. Et les gens aussi qui se sont des fois pas arrêtés devant la devanture de ce que je suis, commencent à rentrer dans le magasin et à venir en arrière-boutique pour découvrir le vrai Jarry. Et ben moi, je trouve ça bien.
Alors, toutes les générations, tous milieux confondus, viennent vous applaudir. Et vous dites d'ailleurs avec malice qu'en fait, aujourd'hui, on vous aime comme l'oncle un peu chelou de la famille.
C'est ça, moi je suis l'oncle marrant, je suis le meilleur ami, il n'y a pas de problème, on ne se dit pas qu'il va draguer les femmes. Non, je suis vraiment le bon pote. Et même maintenant, chez les garçons, je suis le pote un peu chelou, rigolo, qui peut mettre mal à l'aise par moment. Mais oui, et puis moi, c'est vrai que pour moi, les gens qui viennent me voir, ce sont vraiment des gens de ma famille. Je le conçois comme un anniversaire tous les soirs sur scène. C'est mon anniversaire, on fait la fête, on rigole, on passe du temps ensemble. Donc, non, je suis très content de ce rapport avec les gens. Alors moi, j'ai une question à vous poser.
Vraiment ?
Oui.
Attention, on inverse les rôles.
Par exemple, parce que mon spectacle s'appelle Titre.
Oui.
S'il y avait un titre, une chanson, un titre d'une chanson qui résumerait qui vous êtes, ce serait quel titre de chanson ?
Je réfléchis et je vous réponds juste après la pause.
À tout de suite.
À tout de suite.
Bonjour les amis, vous êtes bien sur Europe 1, c'est Jarry exceptionnellement au micro. J'ai posé une question à Isabelle. Voilà, si un titre devait vous définir, vous définir votre vie, ce serait...
Non mais il est complètement faux ce garçon, il inverse complètement le concept de l'émission, mais comme je l'aime, et bah je joue le jeu.
Alors
ah bah, je vais carrément exhumer un titre de Funny Girl, un titre interprété par Barbara Streisand. En fait, c'était « Mr. Einstein, here I am ». C'était le titre, simplement parce que j'étais une enfant dans la campagne du Vexin normand qui rêvait, comme vous, vous vous demandiez ce qu'il y avait de l'autre côté des collines, derrière la campagne de Rabelais-sur-Layon. Et ben moi, dans mon petit village de 60 âmes, je me demandais ce qu'il pouvait bien y avoir à Paris. Et il y avait cette scène magnifique d'un Funny Girl où soudain, elle dit « Je veux exister, je suis là, je suis prête ». Pour le job.
Ah, c'est génial. Mais c'est super, ça veut dire quand même qu'aux gens, quel que soit l'endroit où vous êtes, des fois, vous avez l'impression d'être loin de ces choses où tout se passe. Non, on n'est jamais loin. Il faut juste croire en une chose, en vous.
Alors, on reprend, Jarry.
On reprend.
Jarry, vous êtes le premier humoriste à parler sur scène de la vie d'un couple homoparental avec enfant. C'est le bonheur et la fierté d'être papa. Papa de jumeaux de 4 ans, qui vous a décidé à évoquer cette vie de famille qui est celle, je le rappelle, de 200 000 enfants en France.
Complètement. Je suis très fier d'en parler sur scène, surtout parce que je suis fier d'être papa. Parce que quand j'ai découvert mon homosexualité, j'ai un peu enterré le projet. Je me suis dit, ce ne sera pas possible. J'ai essayé d'adopter, je me suis rendu compte que les conditions d'adoption dans ce pays étaient, pour un couple homosexuel, quasi impossibles. Et un jour, j'ai senti que l'envie était trop forte et que si je n'étais pas papa, j'allais vraiment en souffrir. Et j'ai eu des jumeaux, un petit garçon et une petite fille. Et chaque jour, je remercie la vie, le ciel, vraiment, parce que juste entendre le mot « papa », qu'est-ce que c'est bon. Après, quand on l'entend à 4h du matin, ça fait moins plaisir. Mais quel bonheur.
Jarry, comment vous organisez, puisque vous êtes un papa sur scène, un papa en tournée, comment vous organisez votre présence auprès de vos enfants?
Alors, tous les matins, je suis avec mes enfants. Tous les matins, je les emmène à l'école. Ils vont à l'école à 8h15, donc papa est là. Des fois dans des états catastrophiques. Mais tous les débuts de semaine, j'essaie de tourner les jeudis, vendredis, samedi en tournée pour être les dimanches, lundi, mardi, mercredi à la maison. Et sinon, tous les soirs, on fait un Skype et ils appellent papa. Mais eux, ils adorent que je parte en tournée parce que je ramène des cadeaux.
D'accord. Bon, en France, les démarches d'adoption sont compliquées, mais pour un couple homoparental, ça relève carrément du chemin de croix, c'est ça?
C'est du chemin de croix, et puis souvent, on vous donne des enfants, ce qu'ils appellent la particularité.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire des enfants handicapés ou atteints de maladies incurables, ce qui est absolument évidemment inadmissible. Oui.
Vous voulez dire que si on est un couple homoparental... Oui. Forcément, on vous donne un enfant à particularité.
Alors forcément, je ne sais pas, parce que je ne vais pas rentrer dans quelque chose d'absolu, mais à 90%, on vous donne un enfant à particularité, on vous le dit. Et là, je crois qu'il y a 7 mois, Europe 1, vous avez parlé d'un couple homosexuel qui avait eu un enfant, avec écrit dans la lettre d'accueil, atteint du sida, mais vous connaissez le problème. Et ça avait fait évidemment scandale, et on en avait parlé partout dans la presse. Il y a des choses, oui, aujourd'hui, quand on voit le nombre d'enfants qui attendent d'être adoptés et le nombre de familles qui ont envie d'adopter et que tout soit très compliqué. Alors, on vous dit que vous pouvez être famille d'accueil, c'est-à-dire accueillir un enfant.
Mais à tout moment, on peut retirer l'enfant quand on est simplement famille d'accueil.
C'est là où on se rend compte quand même que le bien de l'enfant, ce n'est pas du tout une priorité.
Donc, Jarry, lorsqu'on rêve de paternité, qu'on veut transmettre, aimer, éduquer, la seule option, c'est la GPA à l'étranger.
Ben pour le moment, c'est
c'est-à-dire la gestation pour autrui.
La gestation pour autrui. Et évidemment, dans certains pays, parce que la gestation pour autrui, dans certains pays, elle n'est quand même absolument pas tolérable. C'est important. Là, aux États-Unis, par exemple, vous passez devant un juge, il y a une enquête sociale. Il y a toute une démarche très lourde et du coup rassurante et importante qui est faite.
Vous dites une enquête sociale très lourde, menée longtemps. Il faut rencontrer des juges, des psys, des pédopsychiatres, c'est
ça ? Complètement. Et vous devez répondre à des questions auxquelles aucun couple hétéro ne doit répondre, à savoir quelle éducation vous pensez donner à votre enfant, si un de vous deux se sépare, qu'est-ce qui se passe ? Si votre enfant, par exemple, est très colérique, quelles vont être vos réactions ? Est-ce que vous êtes capable de vous maîtriser. Enfin, il faut répondre à des questions incroyables. Et je trouve que tout ça, ça vous fait prendre conscience de ce qu'est un enfant. Et puis, et je trouve ça formidable, mais je trouve ça terrifiant en même temps.
Après cette enquête, vient la rencontre avec la maman porteuse. Alors, est-ce que vous avez assisté à l'accouchement, à la naissance de vos enfants?
J'ai coupé les cordons avec mon copain. Nous étions tous les deux dans la salle d'accouchement avec cette femme absolument incroyable, avec qui d'ailleurs on est toujours en contact, et on a coupé les cordons. Et là, ça a été... Je pense le jour où j'ai le plus pleuré de ma vie. Je pense que j'ai
une
pleuré pendant 5 heures.
Alors le moment où on a déposé pour la première fois dans vos bras votre fils, et votre fille, puisque ce sont des jumeaux. Vous l'avez vécu comment ?
Ah ben c'était extraordinaire. C'est la vie venait soigner une plaie ouverte depuis des années. J'ai été très fier, j'ai eu très peur. J'étais, je passais partout. Je me suis dit à ce moment-là, je suis normal. Je suis un papa. Et bon, l'équipe de médecins était très préoccupée par mon état de pleurs, donc ils étaient plus préoccupés par moi que par la mère porteuse qui accouchait. Tellement ça a été vraiment un cri du cœur, quoi. Et là, je me suis dit, je vais être un papa de dingue. Je vais être l'homme le plus heureux du monde. Mais de toute façon, depuis que je suis papa, je suis le mec le plus heureux du monde. Voilà.
Bon, alors, juste avant de faire une pause, vos enfants sont accros à Mask Singer ?
Alors, mes enfants n'ont pas le droit de regarder la télé. Parce que j'estime qu'un enfant avant 6 ans...
Il est très psychorigide dans l'éducation, Jarry.
Attendez. Non, ils n'ont pas le droit de regarder la télé. Pas avant 6 ans, je pense. Ils lisent des livres et dessinent, colorient et ne regardent pas la télé.
Voilà, vous les préparez pour Normal Sup.
Je les prépare pour qu'ils puissent avoir un sens critique, mais qu'ils aient le temps de rêver d'abord, de penser vraiment que le loup, il n'est pas si méchant que ça et qu'ils découvrent la vie au travers
des... Donc ils n'ont pas vu leur papa dans Mask Singer ?
Non, ils n'ont pas vu leur papa dans Mask Singer. Ils l'ont vu une fois sur un sketch sur mon ordinateur. Ils ont dit « Papa, il est rigolo ». Et voilà. Et après, ils ont dit, est-ce que je peux avoir un cadeau ?
Voilà. On trouve tout de suite Jarry. Jarry, à part votre mère et vos frères, qui vous appelle aujourd'hui Anthony ?
Mes amis d'enfance m'appellent Anthony. Mes ex. Et Dieu sait qu'il y en a nombreux.
Ça va faire plaisir à l'autre papa. Bon, je passe tout de suite à la question suivante.
En plus, ex-fille.
Ah oui,
j'ai eu plus de partenaires féminins que masculins.
Et vous avez failli épouser justement
une femme.
Une jeune fille.
Voilà. Et parce que des fois, quand on va faire un engagement comme le mariage, on se pose des questions existentielles. Et là, j'ai changé de crèmerie. Changer d'église, comme on dit. Je suis allé dans le bâtiment. Et voilà, et j'ai fait le choix d'assumer ce que j'étais profondément depuis des années et que je reniais et que je rejetais en bloc. Alors que j'ai aimé toutes les femmes avec qui j'ai eu des histoires. Je savais juste que je ne pouvais pas les aimer comme elle voulait m'aimer. Mais même sexuellement, je savais que je ne serais jamais cet homme incroyable. Voilà, j'étais une jolie promesse. Mais ce n'était pas le dessert.
Alors, votre mère et vos frères quittent souvent la campagne angevine de Rabelais-sur-Layon pour plonger dans l'univers parisien déjanté de celui qui est devenu une star de la télé, même si on sait que vous avez une vie de famille absolument exemplaire, mais je dis déjanté simplement parce que vous avez un agenda fou.
Oui. Alors, ma famille n'aime pas trop me rendre visite à Paris, parce que c'est pas trop leur univers. Non, et puis c'est vrai que moi je préfère aller les voir parce que ça me permet de me ressourcer, de prendre toute l'énergie dont j'ai besoin, parce qu'en plus on est une famille ultra solidaire. On est très soudés les uns les autres et que moi, je préfère les voir dans leur environnement plutôt qu'ils soient agressés dans le mien.
Mais ils viennent quand même vous voir sur scène.
Ah
donc
oui,
comment réagissent-ils quand justement, ils se retrouvent au milieu d'un public qui hurle, qui vous acclame, qui trépigne ?
Ma mère, elle me dit tout le temps, je suis content qu'il y ait du monde. Ça, c'est son angoisse. Que je joue devant 5 personnes qui font bravo, bravo. Donc ma mère, elle me dit tout le temps, c'est bien. Parce
donc,
que
alors,
quand
la,
je suis arrivé...
la tournée des Zéniths, alors ça doit l'enchanter, là, votre maman.
Mais je crois qu'elle ne mesure pas trop, ma maman, ce que ça représente, tout ça. Elle me dit tout le temps, elle me dit, ça va, ça se passe bien. Hein. Tu t'en sors. Je dis, oui, maman,
je m'en sors.
Mais je crois que ma mère, elle s'en fout du nombre de personnes ou des Zéniths. Pour elle, ce n'est pas ça. C'est juste de savoir si son fils est heureux. Par exemple, quand je lui dis, je fais un deuxième spectacle, mais puisque tu as encore des choses à dire. Ben je dis oui, maman, je vais écrire des sketchs. Elle me fait ah bon, moi, tu parles pas trop de moi. Et
alors, justement, est-ce qu'elle vous recadre parfois, votre maman, ou bien elle jubile devant votre liberté de ton ?
Ah non, elle me recadre tout le temps.
Tout le temps.
Des fois, elle m'appelle, elle me dit tu m'as fait honte dans l'émission, qu'est-ce que je vais dire à la voisine ? Du coup, je sors pas. Alors, je dis bah pourquoi tu dis ça ? Parce que par exemple, dans le film Nicky Larson, que je joue nu dedans et on voit mon kiki. Ça m'en a voulu. Hein.
C'est vrai ? Pendant combien de temps elle vous en a voulu ?
Longtemps, parce qu'elle m'a dit, tu te rends compte, je t'ai jamais vu nu, il faut que j'aille dans un écran de cinéma 16/9 pour voir ton sexe en gros plan. Hein ? Et je lui ai dit, mais maman, calme-toi, je suis comédien. Ah non, hein ! Ah ça non ! Ça, je...
Donc elle aurait préféré en fait la comédie française.
Alors oui, mais je pense qu'elle se serait ennuyée à la comédie française.
Bon, vous, Jarry, le moment qui vous fait le plus jubiler dans ce nouveau spectacle baptisé titre, c'est lequel ? Allez, il faut choisir.
Il y en a deux. Alors les deux, c'est quand le public choisit la chanson qu'il veut chanter le soir. Allez. J'adore parce que ça en dit très long et ça dit beaucoup de choses. Et c'est quand je fais une déclaration d'amour à ma maman et aux femmes.
Bon, au fait, il en est où le scénario du long métrage que vous écrivez depuis 2 ans ?
Eh bien écoutez, on passe à une partie active. On est en fin d'écriture et on va rentrer en production.
Vous allez réaliser ou co-réaliser ?
Je vais, je pense, co-réaliser et surtout jouer.
Par autobiographique ?
Oui.
Oui,
oui, très, très, très autobiographique. Très envie dans ce film de défendre les soins palliatifs, de parler de la fin de vie, de dire aux gens que vous savez que ça peut être formidable. Parce que moi, c'est le plus beau souvenir que j'ai avec mon papa. Celui qui a permis que je suis ce que je suis aujourd'hui, d'être fort, d'être généreux. Et parce que la mort, je vous jure que c'est beau.
Et vous évoquez, j'imagine, là, quand on se parle comme ça, les yeux dans les yeux, ce moment où, avec ce père qui n'était pas bavard, pas très prolixe,
non,
et avec lequel vous n'aviez jamais pu communiquer, ce moment où ce père, soudain, vous prend la main et dit « vis », c'est-à-dire « vas-y, vis », sans du tout te préoccuper de ce que pensent les autres, et tu as ma bénédiction, c'est ça?
C'est exactement ça. Et je suis vraiment né à ce moment-là. C'est-à-dire que quand la personne qui vous met au monde, qui ne parle plus et ne voit plus depuis un mois, retrouve toutes ses facultés et vous dit « vie » et que les choses s'arrêtent derrière. C'est extraordinaire. Alors c'est le plus beau moment de ma vie, hein, tout simplement. Et des fois, on passe sa vie à se persuader qu'on n'aime pas des gens, alors qu'en fait, on les aime tellement qu'on ne peut pas assumer juste de les aimer.
Je vous embrasse. À très vite. Et merci, Jarry.
Merci.